Bonjour chers auditeurs de La Voix de l'Amérique, bienvenue à Votre Santé, Votre Avenir, le magazine hebdomadaire santé de VOA Afrique. Devant ce microphone, Nanit Talani. Cette édition de Votre Santé, Votre Avenir se focalisera sur la diarrhée chez l'enfant. Cette maladie se définit comme l'émission de selles fréquentes, molles ou aqueuses différentes des selles habituelles. La diarrhée est la deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans et représente chaque année 10% des décès de ces enfants. Pour en parler, nous aurons le docteur Jean-Fidèle Ilunga Mubayi, pédiatre et directeur au ministère de la Santé en charge de la santé de l'enfant en République démocratique du Congo.
Quand la diarrhée a beaucoup perdu, ça peut créer la paralysie intestinale. À ce moment-là, les intestins ne fonctionnent plus. Si les liquides s'accumulent à l'intérieur des intestins, il y aura des ballonnements abdominaux, difficultés à respirer et l'enfant peut mourir de ça.
Le docteur Jean-Fidèle Ilunga répondra également aux questions que vous avez laissées sur la page Facebook de VOA Afrique. Après cette interview, vous suivrez Carnet de Santé présenté par Linor Moudou. Ce sera la deuxième partie de l'émission.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Comme annoncé, nous allons avoir notre interview avec le docteur Jean-Fidèle Ilunga Mubayi, pédiatre en République démocratique du Congo.
Bonjour docteur.
Bonjour docteur.
Bonjour madame.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle par diarrhée?
Ah oui, la diarrhée c'est une émission de selles liquides ou de selles molles assez volumineuses. Et avec une fréquence ou un nombre de selles qui atteint à peu près 3 fois par jour ou plus. Voilà ce que nous entendons par la diarrhée. L'enfant est en train de faire les selles liquides ou les selles molles et il les fait plus de 3 fois ou plus par jour.
Nous avons un auditeur, Mahamoudou Yougbaré, qui depuis le Burkina Faso veut savoir si toute émission de selles liquides chez les enfants est synonyme de diarrhée.
Oui, effectivement, quand les selles changent de consistance, que ça devient liquide, surtout les selles liquides, maintenant il faut regarder le nombre de fois. Quand c'est une seule fois en une journée, on peut encore observer un peu, sans avoir déclaré que c'est bien une diarrhée. Mais quand il le fait 3 fois, 4 fois, 5 fois ou plus, là il faut carrément accepter que c'est une diarrhée.
En dehors des selles qui deviennent molles et fréquentes, est-ce qu'il y a d'autres signes qui peuvent alerter que l'enfant souffre de la diarrhée?
On a parlé de selles liquides, de selles molles. Il n'y a que cet aspect-là qui fait considérer que c'est une diarrhée. Il ne faut pas que les familles s'égarent un peu à la considération de la diarrhée. C'est l'aspect des selles et la fréquence des selles qui détermine ce que nous appelons la diarrhée.
Alphonse Mbouaki, depuis la RDC, veut savoir quelles sont les causes de la diarrhée chez l'enfant de 0 à 5 ans.
Dans nos milieux ici, la cause la plus fréquente sont les virus. Et il y a un virus qu'on appelle le rotavirus qui est vraiment une cause très fréquente de diarrhée chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Deuxième cause, ce sont des causes alimentaires. Quand l'enfant consomme des aliments qui sont mal préparés ou qui sont mal conservés, qui sont contaminés, il peut également faire de la diarrhée. Dans nos milieux, il y a également les parasitoses intestinales, les verminoses, comme les ankylosomes, d'autres vers intestinaux. Il y a des amibiases qui sont en cause dans notre milieu également. Donc, tout ça sont des parasites, des germes qui peuvent créer de la diarrhée ici chez nous. Il y a également la diarrhée que nous appelons la diarrhée de stress. Donc, quand l'enfant est sous stress quelconque, il peut également émettre des selles diarrhéiques. Il y a également les diarrhées médicamenteuses. Certains médicaments, quand l'enfant les prend, il peut réagir à ces médicaments ou alors ça peut provoquer de la diarrhée. Alors les autres causes, c'est comme des malformations chez certains enfants, ça peut provoquer de la diarrhée. Voilà un petit peu, une petite liste que les familles peuvent déjà retenir comme étant à la base des diarrhées dans nos milieux.
Voilà la question d'Alphonse Mbouaki depuis la RDC. Dans les milieux ruraux, il n'y a pas d'eau potable et souvent les mamans donnent aux enfants les eaux de source, de rivière. Est-ce que cela ne constitue pas un risque de transmission de diarrhée aux enfants?
Effectivement, nous parlons que la diarrhée est d'abord une maladie hydrique, ça veut dire causée par l'eau. Comme j'ai dit, la diarrhée d'origine alimentaire. Donc, dans la diarrhée d'origine alimentaire, c'est tout ce que l'enfant consomme qui peut être contaminé, qui peut être souillé. comme l'eau, comme les aliments, comme toute autre chose, quand c'est contaminé. Et donc, dans nos milieux ici, surtout en Afrique subsaharienne, la consommation de l'eau non hygiénique, non potable, c'est fait en milieu rural. Et on prend de l'eau de rivière, les gens se lavent dedans, les gens font des évacuations, des installations sanitaires dedans, les gens utilisent la brousse pour faire la défécation, et quand il y a des pluies, ces choses-là rentrent dans les rivières et on consomme cette eau de rivière. Donc ça, c'est une maladie de main sale, hein, une maladie hydrique, c'est-à-dire qui est causée par également les infections qui viennent par l'eau.
Nous entendons parler de la diarrhée aiguë et de la diarrhée chronique. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre la différence entre les deux?
Quand on veut comprendre la classification, comment catégoriser les diarrhées, par rapport à la durée, distinguons deux types de diarrhée. La diarrhée aiguë, ça veut dire la diarrhée qui ne dépasse pas encore 14 jours. Donc si l'enfant fait de la diarrhée que c'est moins de 14 jours, nous parlons que c'est une diarrhée aiguë. Mais dès que la diarrhée de l'enfant atteint 14 jours et dépasse le nombre de 14 jours, l'enfant fait toujours la diarrhée. Nous parlons de la diarrhée persistante ou de la diarrhée chronique. Donc ça, c'est par rapport à la durée. Mais nous pouvons aussi catégoriser la diarrhée par rapport au contenu. Les selles de l'enfant, si c'est des selles liquides, nous parlons de diarrhée aqueuse, c'est-à-dire qui contient des liquides, de l'eau. Mais s'il y a du sang dans les selles, à ce moment-là, nous parlons de diarrhée sanguine. Donc on peut catégoriser la diarrhée par rapport soit à la durée, moins de 14 jours diarrhée aiguë, 14 jours ou plus diarrhée chronique ou persistante. En rapport avec le contenu des selles de l'enfant, quand c'est vraiment des liquides ou aqueuses justement, nous parlons de diarrhée aqueuse. Quand il y a du sang dans les selles, nous parlons de diarrhée sanglante. Voilà un peu les différentes catégories de diarrhée sanglante.
Est-ce qu'il y a une diarrhée qui est beaucoup plus grave que l'autre par rapport aux explications que vous avez données?
Les diarrhées aiguës sont plus graves. Les diarrhées sanglantes sont également plus graves. Donc quand il y a du sang dans les selles de l'enfant, bah, c'est plus grave encore. Les diarrhées aiguës créent beaucoup de déshydratation chez les enfants et ils peuvent mourir de ces déshydratations-là. Les diarrhées sanglantes sont plus graves parce que les microbes qui sont à la base peuvent tuer facilement l'enfant.
Et pourquoi la diarrhée est-elle souvent accompagnée d'une déshydratation?
Oui, ce qu'on appelle diarrhée en soi, c'est une perte excessive de l'eau qui passe par les intestins et qui sort à l'extérieur. Parce que normalement, l'eau est éliminée en quantité minime par les selles, comme ça que les selles ont toujours une consistance un peu plus consistante, parce qu'il y a peu de liquide qui passe par, qui sort des intestins. Et donc, nous éliminons l'eau par les urines, on élimine l'eau par la sueur, par d'autres mécanismes. Mais quand les intestins ne savent plus contenir de l'eau et que l'eau sort en grande quantité par les intestins et que c'est éliminé à l'extérieur, et donc à ce moment-là, cette eau-là, c'est l'eau qui devrait être dans le corps de l'enfant et non pas sortir à l'extérieur. C'est comme ça que toute quantité de l'eau qui sort des intestins et qui est éliminé à l'extérieur diminue la quantité de l'eau dans le corps de l'enfant. Et ça crée ce que nous appelons la déshydratation, ça veut dire une perte excessive de l'eau par rapport à ce que l'enfant devrait avoir dans le corps.
Hormis la déshydratation, est-ce que la diarrhée peut provoquer d'autres maux chez l'enfant?
Ah oui, il y a des choses comme ce que nous appelons l'occlusion intestinale. C'est quand la diarrhée a beaucoup persisté et qu'il y a beaucoup de troubles maintenant qui sont créés, les intestins peuvent se bloquer. Donc, se bloquer totalement, ça peut également créer ce que nous appelons la paralysie intestinale. À ce moment-là, les intestins ne fonctionnent plus. Tous les liquides s'accumulent à l'intérieur des intestins, il y aura des ballonnements abdominaux, difficultés à respirer et l'enfant peut mourir de ça. Donc ça, c'est déjà des choses qui compliquent beaucoup les diarrhées quand ils sont mal pris en charge.
À quel moment est-ce qu'un parent doit s'inquiéter ou consulter un médecin en cas de diarrhée?
Bon, ce qu'on recommande, c'est que dès que la diarrhée commence, il est toujours souhaitable d'aller voir le médecin pour qu'on sache qu'est-ce qu'il y a à la base de cela. Sinon, toute diarrhée avec le sang, les parents ne doivent pas rester à la maison. Dès qu'il y a du sang dans les selles, là, rapidement, quand on s'entraîne, il faut aller vers l'hôpital. Quand il y a des signes de fatigue chez l'enfant, vous voyez que l'enfant fait la diarrhée, même s'il vient de commencer la diarrhée, que vous trouvez qu'il est fatigué, là, obligatoirement, il faut quitter la maison et aller voir le médecin. un enfant qui commence à diarrhée, vous voyez que son ventre a ballonné, il ne faut pas traîner à la maison avec un enfant comme ça. Et si l'enfant fait la diarrhée et qu'il ne peut pas boire de l'eau par la bouche, le liquide que vous lui donnez, ça c'est déjà un mauvais signe qui montre dans les yeux, qui vont suivre, il va beaucoup se déshydrater. Les parents doivent quitter immédiatement la maison avec l'enfant. Si l'enfant fait la diarrhée avec fièvre aussi, c'est une recommandation qu'il faut ramener l'enfant immédiatement sans traîner à la maison. Voilà un peu les quelques signes simples que les parents peuvent retenir pour ne pas traîner avec l'enfant à la maison.
Il y a beaucoup de parents qui préfèrent l'automédication, donc ils préfèrent donner de la tisane aux enfants, même s'ils constatent que c'est un cas de diarrhée. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents-là?
Bon, il y a plusieurs types de tisanes que l'on donne aux enfants en cas de diarrhée dans le milieu. Ce que nous ne recommandons pas et que nous déconseillons beaucoup, ce sont des tisanes que l'on donne pour arrêter la diarrhée. Par exemple, quand on donne les feuilles de goyave aux enfants qui font la diarrhée, on fait des effusions pour arrêter la diarrhée. Et ça, c'est pas bon. Parce que l'enfant doit éliminer ce qui n'est pas bon, que les tubes digestifs ou ses intestins ne supportent pas. On doit les mettre à l'extérieur. La diarrhée, c'est une manifestation que les intestins ne supportent pas quelque chose, soit que ce sont des microbes, soit que c'est une intoxication. Il y a beaucoup d'accidents qui se sont faits dans nos pays en essayant de donner des tisanes qui arrêtent la diarrhée. Alors, dans ces choses-là, cette tisane essaie de bloquer le fonctionnement des intestins, avec comme conséquence l'accumulation de toxines qui devraient être éliminées, de microbes qui devraient être éliminés, de tous les déchets qui devraient être éliminés. Et ça complique encore beaucoup la digestion. Il y a beaucoup d'enfants qui sont morts à cause de ça. Mais si c'est des choses que l'on donne pour réhydrater l'enfant, donc des liquides, de l'eau et des petites plantes qui peuvent réhydrater l'enfant, là, c'est bon. Et donc, nous ne recommandons pas vraiment l'usage de produits qui arrête la diarrhée, ce n'est pas bon à utiliser.
Est-ce que le fait de bouillir l'eau nous buvons peut constituer une prévention contre la diarrhée?
Et tout à fait. Dans les conditions où on n'a pas les possibilités de quelques substances à mettre pour rendre l'eau potable, l'eau bouillie est une recommandation essentielle. Il faut vraiment bouillir de l'eau si on ne peut pas trouver une autre forme d'eau potable pour donner aux enfants à boire.
Alors, quelles autres précautions les parents ou les membres de la famille peuvent prendre pour prévenir la diarrhée?
C'est du côté alimentation des enfants, les conservations des aliments. Quand on donne des aliments actuellement chauds ou tièdes, c'est ça qu'il faut faire. Pas donner des aliments froids à nos enfants. Et également, dans certains ménages, les mères veulent trop faire de mélange. Trop de mélange pour vouloir donner trop de choses au même moment à l'enfant. Et la digestion de l'enfant qui n'est pas encore très mature. Le régime alimentaire de l'enfant doit être rationnel. Ça veut dire donner des choses comme il faut, en quantité qu'il faut. Ne pas faire trop de mélange, parce que plus on fait de mélange, ça va perturber la digestion. Et moi, j'ai vu une maman qui fait la bouillie de son enfant. Il met le soja, il met les œufs, il met les chenilles, il met les poissons, il met tout ce que vous voulez là-bas. Et ça, c'est catastrophique. À un moment donné, quand vous mettez tout ça dans le ventre de l'enfant, la digestion devient très compliquée. L'autre chose, c'est l'hygiène générale du milieu où les enfants boivent. Il faut se laver les mains. Nous, les parents qui nourrissons les enfants qui doivent prendre à manger, doivent se laver les mains. Donc, la pratique de lavage de mains est systématiquement très, très importante. Ça protège beaucoup les maladies du diarrhée. Et donc, le lavage de mains systématique avant de manger, après de manger, quand on revient des toilettes.
Est-ce qu'il y a un vaccin contre la diarrhée?
Effectivement, oui. Les vaccins anti-rotavirus. Parce que je dis que environ 60% de diarrhée chez les nourrissons, chez les enfants, sont des virus. Et c'est le rotavirus qui est principal. Et donc, si on vaccine les enfants contre le rotavirus, les vaccins existent, on peut déjà réduire sensiblement la prévalence et la survenue de diarrhée chez les enfants.
Puisque le lait maternel contient de l'eau, est-ce que allaiter exclusivement l'enfant sans lui donner de l'eau est une solution pour éviter la diarrhée?
Là, effectivement, qu'on recommande que quand l'enfant est né, pendant les 6 premiers mois, le lait maternel suffit pour lui donner tous les nutriments nécessaires, également pour lui donner les quantités d'eau qu'il faut. Et en ajoutant à cet âge-là d'autres aliments, on complique la digestion. Et beaucoup des enfants font la diarrhée ou les constipations suivies de diarrhée. Et donc, l'introduction des autres aliments avant l'âge de 6 mois et de conseiller à cause effectivement des problèmes de digestion qui peuvent entraîner des diarrhées.
Est-ce qu'il faut poursuivre l'allaitement maternel si le nourrisson a la diarrhée?
effectivement, c'est même un moyen. Dans le lait maternel, il y a des substances que nous appelons les anticorps. Et les anticorps, peut-être que l'enfant n'en a pas suffisamment, le lait maternel lui apporte des anticorps pour combattre les microbes. Et donc, quand l'enfant fait la diarrhée, il a encore le lait maternel, il faut continuer à donner le lait maternel. Il faut lui ajouter d'autres liquides pour qu'il ne se déshydrate pas.
Si l'enfant ne prend que le lait artificiel et qu'il souffre de la diarrhée, est-ce qu'il faut continuer l'allaitement artificiel ou arrêter?
Il faut continuer à lui donner, sauf si le médecin a trouvé la cause de la diarrhée, c'est ce lait-là. Mais généralement, un enfant qui a déjà pris le lait pendant plusieurs mois, il n'y a pas de raison que le même lait qu'il connaît, que son type digestif connaît, que des personnes connaissent, lui provoque la diarrhée. Mais souvent, c'est le changement de lait et ça peut provoquer aussi la diarrhée. Donc là, il ne faut pas que la famille arrête de donner le lait, sauf si le médecin trouve que c'est à base de ce lait-là, si l'enfant fait la diarrhée, là, on peut déconseiller et peut-être changer le lait.
Nous sommes à la fin de notre émission. Docteur Ilunga, est-ce que vous avez des conseils à donner à toutes ces maman, à tous ses pères ou à toutes ces personnes en charge de ses enfants de 0 à 5 ans afin d'éviter la diarrhée ou de prévenir la diarrhée chez ses enfants?
Oui, le premier conseil, c'est que pendant les 6 premiers mois, il est excessivement important de garder l'enfant seulement au lait maternel seul, sans rien donner d'autre, pas de l'eau, pas d'autre chose. Ça protège beaucoup, ça augmente la quantité des anticorps qui doivent combattre les microbes chez l'enfant et ça peut prévenir les diarrhées plus tard. Et quand l'enfant a déjà dépassé les 6 mois, la question des aliments qu'on donne et l'eau qu'on donne à l'enfant, comme on vient de dire, il faut donner à l'enfant l'eau sécurisée. Ça veut dire que si vous n'avez pas de produits à mettre, il faut bouillir cette eau-là, le refroidir et donner à l'enfant. Les aliments de l'enfant doivent être hygiéniquement gardés. De préférence, donner les aliments que l'on vient de préparer, qui sont qui ont un peu de chaleur. Alors, le lavage des mains systématiquement est très, très important, que ce soit les mains de l'enfant, que ce soit les mains des mères qui alimentent l'enfant. Et dans les pays où on a déjà introduit les vaccins anti-rotavirus, la vaccination est indispensable. Donc, faire vacciner son enfant complètement va protéger également les enfants. Et si l'enfant commence une diarrhée, il est souhaitable de l'amener directement chez un prestataire, un infirmier ou un médecin pour qu'il cherche la cause, parce que le traitement de la diarrhée, c'est chercher la cause, traiter cette cause là-bas, réhydrater l'enfant. Et donc, il n'y a que ces trois choses qu'il faut faire correct.
Merci beaucoup, docteur.
Merci, madame.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Vous venez de suivre notre interview avec le docteur Jean-Fidèle Ilunga Mubayi, pédiatre en République démocratique du Congo. Maintenant, place à Carnet de santé avec Linor Moudou.
Coup d'œil sur l'actualité.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur la réanimation cardio-pulmonaire ou RCP. Un expert nous explique comment pratiquer ces gestes de premier secours qui sauvent la vie. Dans conseils et astuces, nous verrons les premiers soins à prodiguer en cas de brûlure au premier degré. Les migraines, que signifient-elles? Quand faut-il s'en inquiéter? Les réponses à vos questions.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. La réanimation cardio-pulmonaire ou RCP, c'est une technique de premier secours qui peut sauver des vies. De façon générale, une réanimation cardio-pulmonaire associe les compressions thoraciques, aussi appelées massage cardiaque, et une ventilation ou respiration artificielle. La RCP doit se pratiquer dès que la victime cesse de respirer. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à la maison mère du service des sapeurs-pompiers de Washington DC, où nous avons aussi appris comment faire un massage cardiaque. Regardez.
Sarah,
merci beaucoup de nous rejoindre. La RCP, qu'est-ce que c'est?
C'est la réanimation cardio-pulmonaire. Il s'agit donc d'apporter de l'oxygène au cœur et aux poumons afin que le corps de la personne reste en vie, quels que soient les problèmes ou accidents cardiaques dont elle pourrait souffrir.
Et pourquoi est-il important que tout le monde sache comment pratiquer la RCP?
Parce que vous ne savez jamais quand vous rencontrerez quelqu'un qui subit un arrêt cardiaque soudain. Et c'est donc une compétence très simple et facile à apprendre que vous pouvez utiliser à tout moment.
Je suis très heureuse d'apprendre cette technique, mais avant cela, je pense que nous voulons en savoir un peu plus parce que ça a l'air tellement complexe.
Oui.
Et vous dites que tout le monde peut le faire, n'est-ce pas? Alors dites-nous, qui est un bon candidat pour recevoir la RCP et qui ne l'est pas?
Donc, toute personne qui est inconsciente et ne réagit pas quand vous essayez de la réveiller en demandant « Est-ce que ça va ?» peut recevoir la RCP. Si vous tapez sur quelqu'un qui est inconscient et n'obtenez pas de réponse, il s'agit d'un candidat pour la RCP.
OK, d'accord. Voyons donc les étapes. Alors, disons que je vois quelqu'un qui est inconscient. Qu'est-ce que je fais en premier?
La première chose à faire est de bien observer la scène, inspecter l'environnement où cette personne est inconsciente. Vous ne voulez pas devenir une victime ou vous mettre dans une situation dangereuse.
D'accord.
Donc, vous regardez autour de vous pour vous assurer que vous ne serez pas électrocuté, cogné par une voiture ou attaqué par un animal. Vu que la RCP se fait toujours sur le sol, vous serez à genoux. Si vous rentrez chez vous et trouvez quelqu'un inconscient sur le lit, sur un canapé, ou sur une chaise, mettez cette personne au sol. La première chose que vous faites est de vérifier l'état du patient. Vous allez taper fort sur son épaule et appeler « Monsieur ou Madame, est-ce que ça va? M'entendez-vous ?» Vous faites tout cela car vous voulez que cette personne réagisse lorsque vous tapez et criez. Si la personne ne réagit pas et que vous avez accès à un numéro pour le secours, vous les appelez et posez le téléphone près de vous sur haut-parleur. Pendant que vous attendez, vous allez le mettre torse nu. Si c'est un homme, vous allez soulever la chemise. Ouvrez-la, faites ce que vous allez faire pour pouvoir avoir accès à une poitrine complètement nue. Si c'est une femme, bien sûr, vous allez monter son soutien-gorge. Ce que vous cherchez, c'est le sternum. Le sternum est l'os du sein qui retient les côtes. Mais dans la partie inférieure du sternum est le cœur, qui est à peu près de la taille de votre poing. Vous prenez le talon de votre main et vous le posez au-dessus du cœur.
Ok, d'accord. Je vais essayer de le faire durant vos explications.
Voici comment nous mesurons. Vous prenez quatre doigts à partir du haut du sternum et vous placez votre main au niveau du dernier de vos quatre doigts. Vous allez utiliser vos autres doigts pour renforcer votre main. Verrouillez les coudes afin de ne pas les bouger. Et vous allez être le plus proche possible du patient car vous voulez utiliser tout le poids de votre torse pour descendre le plus loin possible dans la poitrine du patient. Quand les pompiers viennent prendre la situation en charge, c'est à ce moment-là que vous arrêtez le RCP. Ou aussi quand le patient se réveille et commence à tousser ou à gémir. Vous le retournez sur le côté et au cas où il vomit, il le fait loin de vous et vous lui dites « Monsieur, vous êtes tombé, l'ambulance arrive, ne bougez pas ».
Ah d'accord.
Donc vous parlez à la personne pour vous assurer qu'elle va bien, afin qu'elle sache qu'elle est au sol et que les secours arrivent et puis c'est tout.
Retour ici en studio. Nous espérons que vous êtes maintenant un peu mieux préparé en cas d'urgence grâce à ces petites techniques qui peuvent faire une grande différence. Imaginez ceci, vous êtes en train de repasser votre vêtement, vous servez du café, manque de bol, maladresse, vous vous brûlez. Eh bien, si la brûlure affecte seulement la partie supérieure de la peau, c'est une brûlure de premier degré, c'est-à-dire une brûlure superficielle. Ce type de brûlure se produit souvent lorsqu'on touche quelque chose de chaud. Mais le fait de rester trop longtemps au soleil sans protection représente aussi une cause fréquente de brûlure au premier degré. Une brûlure fait partie des maux du quotidien et les brûlures de premier degré sont les moins graves, mais les plus répandues. Comment traiter une brûlure de premier degré? Nous avons posé la question au docteur Jérôme Kembouli, médecin généraliste à Kinshasa.
La brûlure est une lésion traumatique causée par la chaleur. Et lorsqu'il s'agit d'une perte de l'épiderme, on va parler de brûlure de premier degré. Et lorsqu'il s'agira d'une perte de derme, ça sera le brûlure de deuxième degré. Et lorsque la perte atteint l'hypoderme, là alors on va parler de brûlure de troisième degré. Donc en ce qui nous concerne, nous faisons allusion à un traumatisme causé par la chaleur avec comme conséquence perte de l'épiderme. C'est cela, brûlure de premier degré. Les traitements est presque topique. Au niveau local, on va faire un pansement, donc on va essuyer la partie traumatisée. Parmi les principes de traitement, il convient aussi de donner une antibiothérapie, bien que la situation ne donne pas l'impression d'être grave, mais il faut toujours donner une antibiothérapie pour qu'il n'y ait pas le risque d'infection probable. Et lorsqu'il s'agira, si c'est une hospitalisation ou même à la maison, nous donnons toujours conseil pour que celui qui est lésé avec une brûlure soit mise dans le moustiquaire afin que les mouches ne tombent pas sur la plaie, parce que les mouches qui viennent sur la plaie sont les facteurs qui facilitent le risque d'infection. Mais tout dépend des circonstances, mais de manière idéale, le principe, c'est celui que nous avons dit.
Beaucoup d'entre nous ont déjà ressenti une migraine. C'est un mal de tête assez fréquent qui se manifeste souvent d'un seul côté de la tête. La douleur peut être très forte et durer quelques heures ou même plusieurs jours. Lorsque nous ressentons une migraine, qu'est-ce que cela signifie-t-il? Quand faut-il s'en inquiéter? Les réponses du docteur Gilbert Manonga, médecin directeur du centre neuropsychopathologique de Kinshasa.
La migraine, c'est une céphalée chronique. Je vais commencer par définir ce qu'on appelle une céphalée. En fait, nous, en neurologie, nous appelons céphalée toute douleur qui frappe l'extrémité céphalique, c'est-à-dire la tête. Alors, pour les douleurs qui frappent la tête, les céphalées, nous distinguons les céphalées chroniques ou habituelles, ou que nous appelons aussi essentielles. Et la migraine fait partie de ces céphalées chroniques ou essentielles, ou habituelles. C'est-à-dire que c'est un type de mal de tête qui frappe surtout les femmes à partir de 18 ans jusqu'à la fin l'arrivée de la ménopause. Et donc nous pensons que ce sont des céphalées qui sont dues à des troubles vasculaires, mais en lien avec les hormones pour en ce qui concerne les femmes. Alors il faut aussi souligner que habituellement c'est la description des douleurs suffit à elle seule pour pouvoir poser le diagnostic et traiter, parce que souvent les examens qu'on fait pour ce type de céphalées reviennent normaux. Donc c'est comme ça que nous appelons céphalées chroniques et habituelles, essentielles parce qu'il n'y a pas de soubassement organique. C'est seulement quand nous avons des céphalées de type, par exemple dans les migraines, quand nous commençons à avoir un état de mal migraine, que nous allons commencer à chercher la cause. Et il faut le dire que c'est une maladie extrême, pas débilitante, parce que pour l'OMS, elle est parmi les quatre premières maladies les plus débilitantes au monde. Donc on cite la migraine, on cite la démence, on cite la schizophrénie et on cite la quadriparésie, donc la quadriplégie, la paralysie de quatre membres. Ce sont là les quatre maladies les plus débilitantes au monde.
Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons du blanchiment de la peau. Si vous avez des questions ou pour vos réactions, rejoignez-nous sur notre page Facebook VOA Afrique ainsi que sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et à très bientôt.
Nous sommes arrivés à la fin de Votre santé, votre avenir, dans la deuxième partie. Nous sommes arrivés à la fin de Votre santé, votre avenir, dont la première partie de ce programme hebdomadaire était consacrée à la diarrhée chez les enfants. Nous sommes arrivés à la fin de Votre santé, votre avenir. La première partie de ce programme hebdomadaire était consacrée à la diarrhée chez les enfants. Nous en avons parlé avec le docteur Jean-Fidèle Ilunga Moubayi, pédiatre et directeur au ministère de la Santé, en charge de la santé de l'enfant en République démocratique du Congo. Ce médecin a expliqué les causes. ce médecin a expliqué les causes de la diarrhée et les dangers auxquels sont exposés les enfants non traités. Il a aussi mentionné les précautions à prendre pour mettre les enfants à l'abri de cette maladie. Et dans la deuxième partie, vous avez suivi Carnet de santé présenté par Linor Moud. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thierro à la réalisation d'Anne Crafton. Devant ce microphone, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.